France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
L'histoire de la médecine a aussi sa place à table. Pendant près de 2000 ans, la diététique a puisé à la source de la médecine d'Hippocrate. Aliments chauds ou froids, secs ou humides, épices, sauces servaient à réguler les humeurs, voire à guérir les malades. Avec les nombreuses découvertes réalisées à partir du XVIIIe siècle en chimie, en physiologie ou en biologie, la diététique s'est progressivement transformée en science de la nutrition. Science Chrono vous raconte aujourd'hui par le menu cette histoire encore sur le feu de la diététique. Bonjour Bruno Loriot.
Bonjour Antoine Beauchamp.
Vous êtes historien, professeur émérite à l'Université de Tours, président de l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation et vous êtes l'auteur du livre « Une histoire de la diététique d'Hippocrate au Nutri-Score » paru aux éditions du CNRS. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous raconter les évolutions qu'a connues la diététique et elles sont nombreuses. Alors avant de passer à table et de déguster avec vous cette histoire, je vous donne le menu de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous irons du côté de la vallée de l'Indus au Pakistan. Une étude récente de l'un des sites les plus importants du pays, le site de Mergar, nous permet de repenser l'histoire de l'agriculture au néolithique dans la région. On parlera donc de cette étude et de ses conséquences. Mais avant cela, revenons avec vous, Bruno Loriot, à notre histoire des sciences et plus spécifiquement, une histoire pas forcément bien connue, celle de la diététique. On va commencer par le début. C'est quoi la diététique? Comment on peut la définir, Bruno Loriot?
Alors la diététique, c'est un terme qui apparaît assez tôt dans l'histoire, dans la médecine grecque, dès le 5e siècle au minimum, avant Jésus-Christ. Et c'est un terme qui, en fait, désigne tout ce qui est relatif au gouvernement du corps, et d'abord dans un contexte qui est celui de la thérapeutique. Donc le point de départ de la diététique, c'est qu'elle est une des trois voies de la guérison, avec la chirurgie, et avec la pharmacologie.
Si on fait un détour du côté de l'étymologie, je crois que ça veut tout simplement dire en grec l'hygiène de vie.
En gros, oui, ouais. Ça veut dire ça. Hein, ça veut dire ça. Ça veut dire le choix, en fait, qu'on fait, l'arbitrage qu'on fait, les arbitrages qu'on fait sur sa vie.
Et qui vont avoir des conséquences sur notre santé. Vous dites dans votre livre, Bruno Loriot, l'histoire de la diététique ne semble guère prisée par les praticiens eux-mêmes. Et c'est vrai, quand on pense à l'histoire de la médecine, on pense à l'histoire de la chirurgie, à l'histoire de la pharmacopée. Oui. Et on oublie que l'alimentation, la diététique, était l'un des trois piliers de cette médecine antique. Comment on explique que la diététique soit un tel impensé, un tel angle mort dans l'histoire de la médecine?
Dans l'histoire de la médecine, enfin, en tout cas, dans l'histoire de la médecine écrite par les médecins, je dirais, bon, sans vouloir les charger d'aucune manière, bien entendu, mais c'est aussi lié au fait qu'au moment où ces médecins écrivent, bah, la diététique est déjà très marginalisée dans la culture médicale officielle, disons, elle est devenue quelque chose d'assez presque le fait d'amateurs ou de praticiens très minorisés. Et donc, du coup, on s'y intéresse peu, sauf de manière peut-être un peu sarcastique, on va dire. Hein. Donc, c'est un peu pour ça qu'il n'y a pas eu de travaux très approfondis menés par les médecins. Par contre, les historiens ont travaillé dessus. Il ne faut pas... Les historiens des sciences, les historiens de la médecine qui n'étaient pas des médecins ont travaillé beaucoup là-dessus, mais de manière un petit peu fragmentaire. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est rassembler un peu tout ça. C'était très prétentieux parce que, en fait, ça m'a pris beaucoup de temps.
Et le livre est gourmand, il fait son poids, il fait sa taille. Alors, on va pas parler, bien sûr, de toute l'histoire. En 25 minutes, une demi-heure, c'est impossible de raconter toute l'histoire de la diététique. Mais on va quand même rappeler les fondements hippocratiques de cette diététique-là, sur quelle conception du corps et quelle compréhension du corps tel que le pensait Hippocrate repose la diététique.
Oui, alors effectivement, les premiers textes qu'on a, c'est ceux d'Hippocrate ou attribués à Hippocrate, ce qu'on appelle le corpus hippocratique, dans lequel vous avez plusieurs traités qui traitent de la diététique, dont un qui s'appelle Diaita, donc justement, c'est-à-dire le régime, donc on traduit par le régime. C'est des textes qui nous permettent de voir un peu quels sont les fondements de cette première diététique, en quelque sorte. Un premier fondement, c'est un peu je dirais, la correspondance qui existe entre le corps microcosme et l'univers macrocosme à travers ce qu'on appelle les qualités premières, chaleur, humidité, qui se combinent à la fois dans les éléments qui constituent le monde et dans les aliments qui font l'alimentation et qui finalement aussi constituent ce qu'on appelle les humeurs, c'est-à-dire ces fluides qui circulent dans le corps. Donc tout ça crée un jeu de correspondance et un des objectifs de ceux qui écrivent sur l'alimentation et la santé, sur la diététique, donc à l'époque d'Hippocrate et après, à l'époque de Galien, c'est d'essayer d'étudier toutes ces correspondances, de faire jouer toutes ces correspondances, de voir de quelle nature elles sont, quelles conséquences ça a sur le traitement de tel malade, ou au contraire, sur le fait de maintenir tel patient en bonne santé. C'est le deuxième aspect de la diététique, donc un point de départ qui est celui plutôt de la thérapeutique, et puis un point qui arrive assez rapidement, où il s'agit, au fond, de ce qu'on appellera l'hygiène, du nom d'ailleurs d'un traité antique aussi, de Galien, hein, qui consiste à essayer de maintenir cette bonne santé, y compris par l'alimentation.
Ce qu'on appelle, pour parler de façon un peu chic, l'homéostasie, voilà, maintenir un état de stabilité et de santé.
De santé, qui est un état. Alors, on a imaginé que les Grecs voulaient qu'il y ait une sorte d'état absolu, qui serait l'état de santé absolu, mais ça, c'est pas exactement ça. La santé, c'est un équilibre qui est à la fois stable mais instable aussi, donc menacé sans cesse, et il faut sans arrêt essayer de trouver un moyen de le maintenir. Donc dans le cadre, par exemple, de ce qu'on appelle les tempéraments, qui sont... Tempéraments, ça veut dire un mélange. Donc un mélange de qualité première, chaud, froid, sec, humide, enfin ça dépend. Et là, ces tempéraments, sanguin, phlegmatique... Oui, c'est ça, bilieux, colérique, hein, oui. Et puis j'en oublie
mélancolique.
Un. Mélancolique, bien sûr, la bile noire, la trabile, hein. Eh bien, ces tempéraments, ils définissent le profil d'un individu. Donc, dans bien des cas, heureusement, on doit juste faire attention à le maintenir. Dans certains cas, il faut le corriger parce qu'il y a un excès. Et l'alimentation peut servir à ça.
Alors, ça nous paraît exotique, et moi j'ai envie de comprendre quel pourrait être mon menu, si par exemple je me définis comme, je sais pas, mélancolique ou colérique, j'ai 37 ans, voilà. Quel menu me recommanderait Hippocrate en fonction justement de ces associations entre le cru, le cuit, l'amer, le doux, le chaud, le sec, l'humide, l'humide, le sec et le chaud et le froid.
Voilà.
Quel serait un menu type en fonction d'un tempérament donné?
Alors, mettons que vous êtes mélancolique.
Ouais.
Mettons que vous êtes mélancolique.
Comme caché.
J'avais cru le comprendre. Donc, vous avez donc un tempérament qui est très majoritairement constitué de froid et de sec. Hein. Et par conséquent, si vous êtes en bonne santé, on va essayer d'avoir un régime alimentaire qui ressemblerait à ce qui serait lui aussi froid et sec, constitué d'aliments froids et secs. C'est compliqué parce qu'il faut les cuisiner, donc ça les réchauffe. Enfin, vous voyez, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Et bon, bah par exemple, on va prendre du porc, aliment froid et sec, issu de la terre, qui elle-même est froide et sèche. Donc, c'est l'origine qui souvent détermine le profil, en quelque sorte, en qualité première des aliments. Et puis, par exemple, bah, comme céréales, on va vous faire des lentilles, mettons. Et donc, vous allez vous régaler de petits salés aux lentilles. C'est peut-être pas de saison aujourd'hui, hein, mais bon, voilà. Mais par contre, si vous devenez malade, et ben là, il faut compenser avec des choses qui sont chaudes et humides. Donc, par exemple, une bonne volaille avec un bon verre de vin fera parfaitement l'affaire.
Je lisais en préparant cette émission donc que les vieillards de tempérament froid pourront boire davantage de vin réputé chaud que les jeunes gens qui sont généralement de tempérament chaud et sanguin. Voilà, il y a tout un tas de typologies et d'alimentation qui est adaptée, comme on le comprend avec Hippocrate, voilà, à ces tempéraments et à ces combinaisons d'humeur. Cette façon de concevoir la diététique, Bruno Loriot, elle va durer longtemps parce que la tradition médicale hippocratique est largement ancrée et dure pour un bon millénaire, plus d'un millénaire. Il y a quand même des petites évolutions. Comment on peut décrire cette évolution jusqu'au XVIIe siècle, XVIIIe siècle de la diététique ? Quels vont être les apports, les ajouts, les modifications ?
Alors, c'est effectivement, on a l'impression que ça se fait à la marge. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent, finalement, c'est une stabilité complète. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que d'abord, les textes qu'on a à sa disposition évoluent. C'est pas un corpus qui se transmet comme ça, intact, de l'Antiquité, par exemple, au Moyen-Âge, puis à l'époque moderne. C'est ça que j'ai essayé de faire aussi, c'est un peu de voir comment les choses étaient arrivées, de manière un petit peu désordonnée, incomplète. Quelquefois, il y a des textes qu'on n'a jamais récupérés. Une grande partie de la diététique antique a disparu corps et bien. Et donc, on ne sait pas très bien ce que c'était que cette diététique non-hippocratique qui existait et non-galénique. Parce que c'est Galien, surtout, qui a été la référence. Mais grâce aux traductions depuis le grec et surtout avant même depuis l'arabe, on a pu récupérer un certain nombre de textes. Ce qui change, c'est incontestablement le rapport à la réalité, parce que la réalité change. La réalité des pratiques alimentaires change. La réalité sociale se modifie. Comment font les médecins ? Ben, ils s'adaptent. Et c'est là où on voit que il y a forcément une évolution du discours diététique qui, sur ses fondements, reste le même, sur ses principes, reste le même, mais sur ses expressions diffère beaucoup. Par exemple, on va avoir le fort développement d'une cuisine pour les malades. Alors, je dis une cuisine, ça veut dire des recettes. Des recettes qui sont écrites par des médecins. Des médecins qui s'intéresse à la guérison des malades, mais qui s'intéresse aussi au processus culinaire qui aboutit à ces plats. Et ce processus culinaire, parce qu'il est culinaire, parce qu'il s'agit de servir à manger, il intègre forcément des notions comme le plaisir, par exemple.
C'est-à-dire que des chefs étoilés, comme aujourd'hui on en connaît des Thierry Marx, des Maurice Sacco, pourraient être des médecins à cette époque-là et avoir la double casquette de cuisinier et médecin.
Alors, je ne pense pas que le cuisinier soit un médecin, mais en tout cas, il est souvent dans les grandes cours surveillé par des médecins. Et disons qu'il a la possibilité d'avoir en stock des recettes, en fait, qui sont des recettes pour malades. D'ailleurs, il y en a dans les livres de cuisine, qui sont beaucoup plus sommaires que celles qu'on trouve écrites par des cuisiniers.
Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que cette histoire de la médecine n'est absolument pas décorrélée de l'histoire qui l'environne, absolument, et de l'histoire culturelle qui l'environne, puisque l'histoire de la gastronomie aussi, elle évolue, avec l'arrivée des épices, de nombreuses
tout
épices, avec la complexification des sauces. Alors tout ça, ça a un rôle aussi dans l'histoire de la diététique, Bruno Loriot ?
Ah, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, les médecins jouent un certain rôle. C'est-à-dire le premier livre de cuisine occidental, non lié à Rome, non lié à Piscius, au reste de l'Antiquité, proprement médiévale, si vous voulez. On a pensé pendant longtemps que c'était 14e siècle, mais en fait, c'est 12e siècle, et en fait, c'est quelque chose qui est dans un manuscrit médical. C'est des recettes qui apparaissent dans un manuscrit médical. Mais c'est des recettes culinaires, très clairement. Et là, pas à but médical, à but exclusivement gastronomique, si on peut dire les choses comme ça. Et donc, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que, effectivement, il y a eu un impact de la réflexion médicale sur, la considération qu'on porte à l'alimentation. C'est quelque chose de central. C'est au centre. Et ça, c'est un peu le point commun depuis le début, depuis Hippocrate jusqu'au XVIIIe siècle, on va dire. Hein.
Alors, on y arrive au XVIIIe siècle, puisque, je le disais, cette histoire, elle est longue, elle est foisonnante. On va se concentrer sur cette période-là, XVIIIe, XIXe siècle, parce que ça a un rôle important et très, très capital, finalement, pour comprendre l'évolution de la diététique et sa transformation. Au XVIIIe siècle, on va partir d'un phénomène qu'est la digestion.
Oui.
Quelle compréhension on en a et pourquoi, finalement, tout d'un coup, il y a une passion digestion qui se crée chez ces savants modernes.
Alors, il y a déjà eu un moment où ça s'est fait. C'était dans l'Antiquité. Il y a eu un débat sur qu'est-ce que c'est la digestion? De quelle nature est le processus digestif? Donc, certaines personnes ont dit que c'était une trituration, c'est-à-dire un phénomène mécanique. Érasistrate, par exemple, donc d'Alexandrie. Et puis d'autres, comme Galien, qui va finir par l'emporter sur le long terme, a dit que c'était une cuisson, un travail de l'estomac et d'autres organes qui consiste à chauffer, et par conséquent, comme dans un four, à faire que les aliments se digèrent et se transforment en substances assimilables par le corps. Bon. Ça a été la théorie dominante. Aussi bien, d'ailleurs, dans la diététique occidentale que dans la diététique, par exemple, qui s'écrit en arabe, qui est très importante pour le Moyen-Âge. Et, brusquement, au XVIIIe siècle, fin XVIIe, début XVIIIe, ça repart. Mmh. Le débat repart. C'est pas les mêmes acteurs, forcément. C'est pas exactement les mêmes termes. C'est trituration, donc toujours le côté mécaniste. C'est normal, il y a une philosophie de la nature très mécaniste. Une tendance de la philosophie de la nature très mécaniste, mais il y a une tendance aussi de la médecine très chimique. Et donc, c'est trituration contre fermentation. Et là, c'est des débats, mais extrêmement virulents, et qui mettent en jeu des personnes qui sont très importantes. Les plus grands médecins du temps s'intéressent à ces questions-là. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous paraît tout à fait étonnant. Et puis, c'est assez virulent. Hein. Il y a un exemple où un partisan de la trituration... Non, un partisan de la fermentation déclare que le papier, l'article écrit par un autre, par un adversaire, c'est un... Pardonnez-moi.
Hein. Allez-y. On va vous boucher les oreilles.
C'est une carta cacata, ce qui veut dire un papier merdeux, en gros. Bon, aujourd'hui, on n'a plus ce genre. Bon, mais ce n'est pas la trituration qui l'emporte, c'est la fermentation. Et donc, ça veut dire que désormais, on va s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur du corps, au niveau de ce processus de fermentation, c'est-à-dire le suc gastrique. Qu'est-ce que c'est exactement?
Là, ça conduit ces savants à faire des expériences toutes plus,
voilà,
plus
voilà,
impressionnantes les unes
voilà,
que les autres,
voilà.
Voire un peu agressives, on va le dire. Comment ils s'y prennent justement pour essayer de faire cette démonstration de la fermentation qu'est la digestion?
Oui, alors, ils essayent de démontrer que la trituration est impossible. Ils prennent un exemple qui est celui, le premier exemple qui est pris, c'est celui des rapaces, pour voir un peu, puisque on trouve dans le gésier des rapaces, on trouve des petites pierres. Et donc, les partisans de la trituration avaient trouvé que c'était la preuve. Et donc, il y a des expériences très simples qui sont faites, qui permettent de voir que, au fond, si on se contente de chauffer, ça ne suffit pas à... Donc, détruire la pierre, et que si on se contente de triturer d'une certaine manière, ça ne permet pas non plus de supprimer ces petites pierres. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on a un phénomène de fermentation, et on va voir même des chercheurs, je dis chercheurs, c'est un terme impropre,
des savants,
c'est même des érudits en fait, hein, italiens comme Spallanzani par exemple, faire une auto-expérience où il examine son propre suc digestif en se faisant vomir lui-même. Alors vous voyez, c'est pas des expériences comme on en ferait aujourd'hui, mais enfin quand même, il y a cette nouveauté que on essaye de se baser sur des expériences.
Voilà, c'est la méthode expérimentale finalement qui prend vraiment le dessus. Voilà. Et à partir de ça, finalement, on découvre plein d'éléments, les micronutriments, les vitamines. Alors là, on saute, on avance dans cette émission parce qu'il faut arriver au 19e siècle et à un élément clé pour comprendre finalement la transformation radicale que connaît la diététique au 19e siècle en nutrition, en science de la nutrition, c'est la mise au point d'un concept qui est le concept de la calorie. Alors c'est un concept qui vient de la physique. La calorie, c'est la chaleur, ça s'évalue avec un calorimètre.
C'est ça.
Lavoisier, le grand chimiste, bossait sur cette notion-là, travaillait sur cette notion-là. Comment on peut expliquer justement l'importance qu'a cette notion sur l'évolution de la diététique?
Alors, il y a des raisons qui relèvent effectivement de l'histoire des sciences. Il y a peut-être des raisons qui relèvent aussi de l'histoire générale. Le modèle sous-jacent au calorimètre, c'est la machine à vapeur, d'une certaine manière. Et donc, ça veut dire que c'est la base de la première révolution industrielle. Et d'ailleurs, Lavoisier et d'autres ont en tête ce schéma et cette référence. Et Lavoisier dit même que réfléchir à cette mesure de l'énergie, c'est-à-dire réfléchir à la dépense de l'énergie, c'est très important pour faire en sorte que les travailleurs, par exemple, qui sont à la base de cette révolution industrielle, aient une alimentation suffisante. C'est quelque chose qui va être complètement sous-jacent au succès de la calorie, qui est une notion facile à comprendre, sinon à quantifier. Des fois, c'est un peu compliqué, mais bon, voilà. Et c'est une notion qui, à la fois, renvoie à la société d'une certaine manière, voire même est politique. Parce que c'est la calorie qui va être un instrument, par exemple, des politiques internationales en matière, alors j'ose pas dire diététique, mais nutritionnelle, en matière de santé quand il est question d'alimentation, dès après la Première Guerre mondiale, peut-être même dès la Première Guerre mondiale.
Comment on glisse de la diététique à la nutrition et quelle distinction vous pouvez faire, Bruno Loriot, de ces deux termes-là?
Alors, je dirais, pour aller vite, que la diététique, c'est forcément quelque chose d'individualisé, même s'il peut y avoir des catégories, parce qu'on évoquait les tempéraments, mais les tempéraments, ça peut changer en fonction de la saison, en fonction de l'âge, en fonction de l'exercice qu'on fait, etc. La diététique, c'est pas uniquement l'alimentation, c'est tout cet ensemble. Donc c'est forcément individualisé, forcément plutôt qualitatif, même s'il y a des intensités dans les qualités premières. Bon, on ne va pas discuter les détails. Mais la nutrition, elle, c'est forcément quelque chose de quantitatif, on l'a vu, puisque on construit les expériences, on construit les instruments pour mesurer dans cet âge de la science expérimentale. Donc c'est forcément quelque chose de collectif aussi, parce que ce qu'on vise, c'est une alimentation qui serait bonne pour tout le monde, d'une certaine manière.
Ce qui est intéressant, Bruno Loriot, dans cette histoire et dans cette évolution de la diététique, c'est qu'on se rend compte finalement que ce sont des expériences en biologie, en physique, en chimie, en physiologie, qui vont modifier notre rapport à l'alimentation, qui vont faire de cette approche-là quelque chose de plus scientifique peut-être, selon les critères du 19e siècle. Et comme vous le dites, voilà, on va vers quelque chose de plus quantifiable, avec des tables alimentaires, des tables qui vont mesurer les apports vitaminiques,
glucidiques, protéines,
voilà,
etc.
Exactement.
Donc les macronutriments.
Il y a des noms même de l'agriculture industrielle comme Liebig, donc cet Allemand qui va lui aussi mettre au point des aliments de substitut. Accompagne ces développements industriels. Et voilà. Alors, au XXe siècle, Comment ça évolue, ça, après cette quantification de la diététique et ce passage vers la nutrition? J'ai l'impression qu'il y a des voix qui soulignent le fait que faire reposer entièrement notre alimentation sur la science est une erreur, est une impasse. On va en venir du coup à cette archive que vous avez choisie. On y arrive un peu tard d'ailleurs aujourd'hui dans Science Chrono. C'est rare de diffuser l'archive aussi tard, mais c'est le déroulement de l'émission qui veut ça. On écoute la voix de Jean Trémolière, qui est le créateur du premier laboratoire de nutrition humaine en France, et lui aussi, donc il faisait partie de ces voix qui s'élevaient contre la scientifisation de l'alimentation. Il répondait aux journalistes de l'émission Vivre en France, diffusée le 16 janvier 1971 sur l'ORTF.
Vous savez, l'alimentation reflète ce qu'est une société. Par conséquent, toutes les crises de la société, on peut dire, se reflètent dans l'alimentation. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, on peut en dire que ce qui est très grave, c'est que on croit encore trop que l'alimentation, c'est quelque chose de rationnel. C'est-à-dire que la science va nous dire ce qu'il faut manger. Heureusement, l'homme, ça n'est pas le cas, n'est-ce pas? Et quand Figaro dit « boire plus que de raison, faire l'amour en tout temps », c'est ce qui nous distingue des autres animaux. Il a parfaitement raison, et même ça ne nous distingue pas des autres animaux. Autrement dit, notre comportement alimentaire, il n'est pas rationnel. Nous sommes guidés par le plaisir, n'est-ce pas? Et ce plaisir, il va très loin parce que, dans la mesure où nous savons nous écouter, nous nous réglons très bien. Et derrière le plaisir que nous trouvons à manger, nous trouvons le type d'homme, n'est-ce pas, que nous voulons être. Et même derrière le type d'homme, le type de famille, le type de société que nous voulons être. C'est bien qu'une société, ça se construit autour de l'évolution de son alimentation.
Voilà Bruno Loriot, la voix de Jean Trémolière. Jean Trémolière que vous évoquez à la fin de votre livre. Pourquoi avoir fait le choix de ce personnage-là pour conclure votre écrit?
Il me semble qu'il est un peu emblématique de ce qui s'est passé au XXe siècle. C'est quelqu'un qui, au départ, était un partisan de l'alimentation rationnelle. Il a fait partie d'une expédition américaine en Crète où les participants ont trouvé que c'était scandaleux ce que mangeaient les Crétois.
C'était des Américains, les gens scandalisés, c'est ça?
Comment?
C'était essentiellement des Américains, les gens scandalisés par le régime.
Oui, lui, il suivait, parce que c'était le modèle dominant venait des États-Unis, le modèle nutritionnel dominant, les modèles nutritionnels dominants. Mais du coup, ils se sont rendus compte que les Crétois ne mangeaient pas du tout de viande, ou très peu, qu'ils ne mangeaient pas du tout de beurre, ou même pas du tout. Et donc, et que néanmoins, ils vivaient très vieux, c'était le régime crétois qui est devenu la diète méditerranéenne et qui aujourd'hui a un grand prestige, que ensuite les cardiologues ont adopté, défendu, etc. Et il s'est rendu compte qu'au fond, ce qui comptait, c'était le partage, c'était le plaisir. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut manger n'importe quoi, bien entendu, ni en quantité, ni en qualité, mais néanmoins. Et donc, l'évolution de Trémolière, c'est une évolution extrêmement intéressante qui, je dirais, nous aide presque à comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire une espèce d'éclatement, un peu des comportements alimentaires et diététiques, avec une multiplicité des acteurs. Il n'y a pas que les médecins désormais, il y a tout un tas d'experts, quelquefois auto-proclamés, qui aide d'une certaine manière ou pas les mangeurs à se trouver un chemin qui est un chemin peut-être à nouveau individuel. Donc peut-être moi je suis assez optimiste.
Est-ce qu'on reviendrait pas un peu d'Hippocrate du coup dans notre rapport à la diététique?
Alors pas uniquement Hippocrate, pas uniquement Hippocrate, mais l'idée au fond que il y a un chemin individuel. Je pense qu'elle a jamais été oubliée, mais elle était très marginalisée, faisait l'objet presque de railleries parce que c'était des sectes, voilà. Et donc, là, d'un coup, ça devient peut-être quelque chose qui peut nous rapprocher, paradoxalement, l'individualisation.
Merci beaucoup à vous, Bruno Loriot, pour approfondir le sujet. Je peux que vous encourager à lire Une histoire de la diététique d'Hippocrate au Nutri-Score. C'est le titre de votre livre qui est paru aux éditions du CNRS. Merci encore.
Merci à vous. Hamburgers, cheeseburgers, spaghetti rice, French fried potatoes and goulash. Take over easy asparagus fish.
Food par The Turtles dans Science Chrono sur France Culture. On tourne cette première page dédiée à la diététique et on ouvre notre chapitre dédié à l'archéologie. On reste un peu dans le thème malgré tout de la nourriture et on part en Inde. Il va être question d'agriculture et de néolithique.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
L'archéologie ressemble à un casse-tête qui oblige les chercheurs à faire entrer des découvertes matérielles dans des cases temporelles. Une étude récente portant sur Mergar, le site néolithique le plus important du Pakistan, nous rappelle l'importance d'établir la chronologie d'un site pour en comprendre l'histoire. En rajeunissant la néolithisation de la région de la vallée de l'Indus, cette étude suggère qu'il n'y aurait pas eu d'apparition autonome des pratiques liées au néolithique, comme l'agriculture, mais que ce phénomène découlerait plutôt d'un apport extérieur. On part donc à Mergar pour mener cette enquête archéologique et on va la mener avec vous, Benjamin Mutin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, professeur d'archéologie de l'Orient ancien à Sorbonne Université, chercheur au sein de l'unité mixte de recherche Orient-Méditerranée. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour nous décrire les résultats de vos recherches, mais aussi pour nous expliquer toutes les questions que soulève le processus de néolithisation dans la vallée de l'Indus et sur ce site de Mergar. J'aimerais peut-être pour commencer qu'on fasse quelques rappels concernant le néolithique. Quels sont, Benjamin Mutin, les critères qui font qu'on passe d'une économie de prédation que pratiquaient les chasseurs-collecteurs à une économie dite de production ?
Alors tout d'abord, merci de votre invitation. Alors oui, pour reprendre une définition un petit peu générale du néolithique, c'est ce que vous venez de dire. En fait, le néolithique est caractérisé par l'apparition d'une économie de production, donc l'élevage des animaux, la mise en culture des plantes. Donc ça, ce sont les deux choses importantes. Également une plus grande sédentarité des populations, enfin disons des populations qui s'installent de façon plus durable aux mêmes endroits, et un petit peu plus tard aussi l'apparition de la céramique. Donc ce sont les critères très généraux, communément admis, qui définissent le néolithique. Mais évidemment, il faut apporter beaucoup de nuances à cette définition. Ça ne convient pas à toutes les régions, tous les sites. Et on sait notamment qu'il y a des populations qui se sont installées de façon durable aux mêmes endroits, même avant le début du néolithique. On sait également qu'ils ont probablement commencé à mettre en culture certaines plantes avant le néolithique.
Tout le débat aussi autour de est-ce que l'architecture précède à la sédentarisation ou bien est-ce que la sédentarisation crée l'architecture. On en parlait dans une émission récente qu'on a consacrée au site de Göbekli Tepe en Turquie. Ouais. Ce qu'il faut aussi dire, Benjamin Mutin, c'est que ce processus finalement de néolithisation qui court quand même généralement sur de très longues périodes se produit aux quatre coins du monde. Donc à plusieurs moments de l'histoire des 10 derniers millénaires, on va dire, et à plusieurs endroits.
Tout à fait. Donc on observe des foyers indépendants justement de l'apparition de l'agriculture en Amérique, hein, d'une façon générale. J'entre pas dans les détails, c'est pas non plus ma spécialité.
Bien sûr, non, mais...
Donc au Proche-Orient, en Chine, en Afrique et en Asie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais le Proche-Orient reste à l'heure actuelle, d'après les données disponibles, le foyer le plus ancien que l'on connaisse du développement de l'agriculture.
Le croissant fertile, donc
voilà,
toute
le
la région.
Le croissant fertile, exactement. Donc cette zone entre le Levant, l'Anatolie du Sud et le Zagros, hein, qui est cette chaîne de montagnes dans l'ouest de l'Iran.
On en vient maintenant à ce site qui vous intéresse directement, le site de Mergar. Peut-être qu'on va, peut-être poser le décor du Pakistan. Quelles questions on se pose concernant le néolithique dans cette région du monde ?
Alors, on peut repartir un petit peu au Proche-Orient pour répondre à cette question. On a un néolithique qui est donc ancien, comme je l'ai dit, au Proche-Orient, dans cette région du croissant fertile, qui commence il y a 12 à 11 000 ans, il y a environ 12 à 11 000 ans. Qui met du temps à se mettre en place, hein, comme je l'ai dit, il y a des phases, des périodes néolithiques sans poterie, puis avec de la poterie à partir du 7e millénaire. En fait, c'est à partir du 7e millénaire qu'on voit aussi une diffusion de l'agriculture depuis le Proche-Orient, notamment vers l'Europe, donc vers l'Ouest, vers l'Europe, et on observe ça aussi vers l'Est, vers le plateau iranien, vers l'Asie centrale. Donc il y a plusieurs éléments qui nous permettent de le dire, notamment que le fait que les sites néolithiques retrouvés en Iran et jusqu'en Asie centrale sont plus récents que les espèces cultivées et élevées que l'on retrouve sur ces sites sont les espèces qu'on observe au Proche-Orient. Il y a également des analyses ADN qui ont été faites qui tentent à montrer ça, tout en gardant en tête aussi quelques exemples qui montrent potentiellement des développements autonomes, quelques sites, quelques données, notamment au sud de la mer Caspienne, qui montrent des développements anciens, plus anciens que le 7e millénaire, donc peut-être encore la possibilité à garder en tête d'un développement autonome. Et dans le schéma général, donc Mergar est situé dans le système de la vallée de l'Indus, finalement, du fleuve Indus. Et donc Jean-François Jarige, on va revenir peut-être après sur les travaux qu'il a conduits, mais lui donc a fouillé, enfin sous sa direction ont été réalisées des fouilles sur ce site, et ces fouilles ont mis en évidence un néolithique extraordinaire, hein, unique, aussi de par l'étendue des vestiges retrouvés. C'est un peu le seul jalon de connaissances que l'on ait pour le Pakistan et pour même au-delà sur cette période du néolithique.
C'est un site qui fait une taille considérable, taille importante.
300 hectares, mais ces 300 hectares contiennent aussi d'autres occupations, enfin d'autres périodes chronologiques, donc du néolithique jusqu'à l'âge du bronze, jusqu'à la fin du 3e millénaire avec des hiatus dans l'occupation.
Qu'est-ce qu'on peut dire de façon générale sur ce qu'on sait de Mergar, sur les différentes périodes d'occupation, sur ce qu'on y a trouvé, sur la différentes natures des cultures matérielles qui sont présentes?
Alors, on a une occupation néolithique, donc on reviendra sur la question de la datation de cette occupation
qui
néolithique
est cruciale,
ce que proposait Jean-François Jarige et ce que nous proposons à travers cet article, cette nouvelle étude. Il y a également une occupation chalcolithique, hein, dont il faut changer la datation en lien avec nos résultats. Donc chalcolithique qui est caractérisée par des occupations d'architecture en briques crues, céramique fine, objets métalliques. On a aussi, enfin pas on, mais à l'époque, ils ont retrouvé des ateliers de potiers, des ateliers de fabrication d'objets d'éléments de parure. Donc ce sont des données qui ne sont pas toutes publiées d'ailleurs, donc il y a encore tout un travail à faire sur les archives de ces fouilles. Et puis la période du début de l'âge du bronze, donc juste avant la civilisation de l'Indus, peut-être un thème dont vous avez déjà abordé lors de cette émission.
Pas encore.
Civilisation de l'Indus, donc civilisation urbaine datée de la deuxième moitié du troisième millénaire, hein, pour faire un peu court. Donc il y a cette occupation de Mergar, et puis jusqu'au milieu du troisième millénaire, et puis une occupation un peu plus récente, plus tardive, datée de la fin du troisième millénaire. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en plus de ces fouilles, Jean-François Jarige a fouillé d'autres sites dans la région, donc dans la plaine de Kachi, hein, dans la région de Mergar, qui ont permis de documenter les tout débuts de la civilisation de l'Indus, qui sont mal connus en fait, et puis aussi d'autres occupations datées du deuxième millénaire. Donc mis bout à bout, tous ces travaux sont spectaculaires.
Mmh. Voilà. Alors si on résume, donc on a trois grandes périodes d'occupation. Avec vos travaux, il faut maintenant mettre un petit point d'interrogation pour définir ces périodes d'occupation. Et quelque chose d'important aussi qu'il faut souligner, c'est la profondeur de certaines des séquences stratigraphique sur le site de Mergard. Pourquoi cette profondeur vous interpelle-t-elle en tant qu'archéologue?
Alors, ce sont notamment pour la période qui nous concerne aujourd'hui, hein, le néolithique, c'est une séquence stratigraphique, donc une épaisseur, en fait, la succession d'occupations humaines, hein, les unes sur les autres, qui fait près de 10 mètres en fait d'épaisseur. Donc c'est une séquence assez exceptionnelle pour cette période, qui en plus était documentée, fouillée. C'est une séquence que Jean-François Jarry, je pensais avoir été très longue, parce que c'est quand même 10 mètres, près de 10 mètres de dépôts archéologiques, et qui sont constitués, pour chaque niveau, il y a 9 niveaux qui ont été définis dans au sein de ces dépôts, qui sont constitués, donc d'une part, ils ont observé toujours à peu près la même succession, d'une part des niveaux d'architecture correspondant à des habitations, puis les habitations ont été abandonnées, ou en tout cas laissées, et ces zones ont servi de zones de poubelles, hein, tout simplement, dans lesquelles ont été creusées ensuite les inhumations. Et puis, après, encore un niveau d'architecture et avec le même schéma qui se répète.
Donc, il y a une réutilisation cyclique de ces habitations qui sont délaissées, voilà. Puis qui deviennent des poubelles, puis qui deviennent des sépultures, et ça redevient des maisons, et
voilà.
Ainsi de suite.
Exactement. Donc lui voyait justement, de fait, une longue séquence qui durait plus d'un millénaire, voire plus de 2 millénaires.
Du côté de la culture matérielle qu'on retrouve sur ce site de Mergard pour le néolithique, quel type d'objets on retrouve et est-ce qu'il y a une culture matérielle propre à cette région-là?
Oui, alors le néolithique est divisé en deux périodes, période 1, période 2, voilà, c'est tout simplement, c'est très simple. Période 1, il n'y a pas de poterie, période 2, il y a de la poterie. La poterie qu'on observe lors de la période 2 est une poterie à dégraissant végétal qui rappelle les premières productions de poterie iranienne, puis apparaît une poterie un peu plus fine, et puis après une poterie à dégraissant minéral, peinte par la suite. Période 1, donc pas de poterie, ça c'est un élément important, parce que la poterie apparaît quand même au 7e millénaire, bon, pas partout, mais en Iran, en Asie centrale, donc là, on n'a pas de poterie du tout. Il y a une industrie lithique, notamment des éléments de fossiles, hein, qui étaient enchâssés donc dans une armature, hein, pour faire des fossiles, mm-hmm. qui servaient à récolter les céréales. Des paniers enduits de bitume, des éléments de parure en coquillage, notamment, et des objets en argile crue, notamment des figurines.
Voilà. Puisque vous parlez justement de fossiles qui servent à faucher des céréales, parlons d'agriculture. Est-ce qu'on a une idée du type de plantes qui étaient cultivées à Mergard et du type d'animaux élevés?
Alors, l'orge dominait dès le début, était cultivée, hein, dès le début, c'est un élément important. Et puis, en ce qui concerne les animaux, la chasse dominait parmi les espèces qui ont été identifiées. La chasse dominait, et les espèces domestiquées, il y en avait dès le début, hein, la chèvre notamment, et les espèces domestiquées ont augmenté au fait au fil de la séquence, hein, de cette séquence que je vous ai décrite, de la période 1. Donc ça, c'est un élément important, parce que le fait qu'il y ait peu d'animaux domestiqués au début de la séquence a conduit Jean-François Jarry, je vois, était l'un des arguments qui lui a fait penser que justement on avait affaire à un développement indépendant et ancien de l'agriculture sur place.
Alors Jean-François Jarry, ce nom est pas mal revenu quand même depuis le début de l'émission,
précisé,
mais du
exactement.
Coup on y vient parce que c'est quand même l'un des personnages importants pour comprendre l'histoire du site de Mergard. Il y a mené plusieurs campagnes de fouilles de 1974-75 à 1985, puis une deuxième campagne de 1996 à 2000. Et sa question, c'était de dater finalement cette pratique et ces pratiques et ce néolithique finalement à Mergard. Quelle méthode il a employée pour réaliser ces datations-là?
Alors, il y a eu des datations par le radiocarbone, faites sur du charbon, enfin des échantillons de charbon, même une vingtaine, hein, pour ce qui concerne donc le néolithique, période 1, période 2. Il a utilisé ce qu'on fait tous, hein, des parallèles en ce qui concerne les vestiges retrouvés, les objets ou l'architecture. Et en fait, si vous voulez, donc il a trouvé des parallèles, notamment pour les figurines en argile que j'ai mentionnées, avec des figurines trouvées sur des sites néolithiques anciens. La poterie qui apparaît lors de la période 2, il l'a comparée à de la poterie qui avait été retrouvée sur des sites néolithiques aussi anciens, hein, beaucoup plus à l'ouest, en Mésopotamie. Pareil pour l'architecture. Enfin, grosse partie de ces comparaisons, en fait, rattachées pour lui, Mergard, un néolithique plutôt ancien. Mm-hmm. Après, en ce qui concerne les datations par le radiocarbone, beaucoup tombaient finalement déjà, donc faites sur du charbon, beaucoup tombaient déjà autour de la période de 5000, ce qu'on montre dans 5000 avant notre ère, hein. ce qu'on a aussi montré dans notre article. Mais c'est vrai que lui, bon, dans son idée, donc il pensait Mergard comme étant un site néolithique ancien, un foyer indépendant du développement de l'agriculture. Ces dates n'étaient pas cohérentes avec son schéma et également avec cette longue séquence stratigraphique.
Donc de bonne foi, finalement, il écarte cette idée de...
Il écarte, et sachant aussi que le site de Mergard est sapé finalement par une rivière, la Bolane, hein, qu'il y a des inondations, qu'il y a des terriers, qu'il y a des racines de plantes qui ont poussé sur le site, qui toujours peuvent semer un petit peu justement le doute, déplacer les échantillons de charbon. On voit ça sur beaucoup de sites, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de ça, mais les terriers peuvent déplacer du mobilier archéologique ou des échantillons d'une couche archéologique à l'autre. Donc pour de bonnes raisons, voilà, il avait écarté ces dates.
Quelles dates, du coup, on va retenir Jean-François Jarige à partir de ses travaux de terrain, de ces études-là, et quelles conséquences ça va avoir sur, finalement, le scénario du néolithique dans la vallée de l'Indus?
Disons que donc dans son hypothèse, les premières occupations néolithiques de Mergard auraient commencé au 8e millénaire avant notre ère et auraient duré, si on prend la période 1 et la période 2, hein, donc le néolithique dans son ensemble, cette période du néolithique aurait duré d'environ 8000 ou un peu après jusqu'à 5000 qui correspondait dans sa chronologie au début du calcolithique.
Et pour lui aussi, cette profondeur des séquences stratigraphiques qu'on décrivait tout à l'heure était le signe d'une présence longue,
c'est ça.
Pour la période 1, par exemple,
c'est ça, tout à fait.
Sur un millénaire à peu près.
Oui, voire plus en fait, finalement. Ouais. Là, si on prend les dates les plus larges qu'il a données, c'est 1, 2, voire plus.
Là que vous arrivez avec votre équipe de recherche. On en vient à votre étude qui est parue dans Scientific Reports en avril 2025. Quel questionnement animait cette réévaluation de ces échantillons, puisque vous n'avez pas fouillé sur place?
Non.
Puisque le Pakistan est une zone en ce moment dangereuse pour les archéologues. Donc vous avez fouillé, vous avez travaillé à partir d'échantillons qui sont présents grâce aux travaux de Jean-François Jarige notamment. Quelles étaient les questions qui vous ont motivé?
Alors, plusieurs chercheurs, depuis même les fouilles des années 70-80, remettaient un petit peu en question cette chronologie. Tout le monde n'était pas d'accord. C'est la science, hein, c'est un débat ouvert, donc tout le monde n'était pas d'accord. Antoine Zazot, notamment, qui a donc produit les datations par le radiocarbone pour cet article, hein, je reviendrai si on a le temps sur la méthode.
Hein, c'est important de la décrire.
L'un des seuls à pratiquer au monde. Lui avait fait de nouvelles dates, hein, qui sont parues dans un article, si je ne me trompe pas, en 2014. Nouvelles datations qui tombent dans la fourchette chronologique que l'on a dans l'article que l'on a publié. Donc il y a lui, il y a d'autres chercheurs archéologues internationaux, hein, des années 70-80, qui remettaient déjà un petit peu en question ce schéma, sans publier non plus de contre-arguments. Et puis, moi, de mon côté, j'avais commencé à travailler en Iran sur un site néolithique du sud-est de l'Iran, à céramique, qui datait d'autour de 5000 et qui, en plus, nous a permis...
Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de céramique pour une période quand même plutôt tardive, on va dire, dans le néolithique, ou en tout cas un peu centrale.
Voilà.
Et c'est étonnant.
Mais en fait, ça ne l'est plus. Donc, c'était un argument aussi qu'avait mis en avant Jean-François Jarige. C'est vrai que d'une façon générale, pas de céramique autour de 5000. C'est curieux quand on sait que la céramique apparaît de 2000 ans avant. Bon, pas partout, mais quand même, c'était un artisanat qui était connu. Donc, moi, disons que, en travaillant sur le néolithique du sud-est iranien, donc je suis à 1000 km de Mergard, mais je m'intéresse évidemment, c'était l'une des problématiques de mes recherches sur le terrain, c'était la question de la diffusion de l'agriculture du croissant fertile jusqu'à l'Asie du Sud. Je tombe sur ce site. 5000 avant notre ère, sans poterie. On a trouvé des figurines qui ressemblent beaucoup à celles de Mergard. Je ne dis pas que ce sont les mêmes populations, mais il y a quand même quelques liens. Donc ça m'a conduit à aussi, moi, alors je ne suis pas le seul encore une fois, hein, mais c'est moi, en tout cas c'était ma démarche sur le terrain à ce moment-là, ça m'a conduit à reprendre les données disponibles sur Mergard, notamment ces datations qui existaient déjà par le passé, faites sur du charbon, qui plaçaient Mergard autour de 5000 avant notre ère.
Donc de l'Iran, vous êtes passé vers la vallée de l'Indus un peu pour vous intéresser à ce site de Mergard.
Voilà.
Vous évoquez à l'instant la méthode qui a été employée dans cette nouvelle étude pour permettre d'avoir une datation précise de ce processus néolithique à Mergard. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette méthode? Elle est étonnante. Elle a porté sur des dents humaines. Alors, pourquoi avoir observé des dents? Combien de dents? Dans quel contexte elles ont été trouvées, ces dents?
Alors, j'aurais aimé qu'Antoine Zazo soit là. Parce que c'est vrai. Bon, enfin, c'est lui. Moi, je suis pas du tout spécialiste de ces questions-là, mais on a échangé. Donc, j'espère pas dire trop de bêtises. Effectivement, en principe, la plupart des datations par le radiocarbone sont réalisées sur le collagène. Mmh. Et là, en l'occurrence, dans beaucoup de zones arides ou semi-arides, le collagène n'est pas conservé, ce qui est le cas à Mergat. Enfin, quand on cherche à dater des restes humains. Et donc, il a utilisé la datation sur bioapatite qui correspond donc aux carbonates qui sont contenus dans la fraction minérale des tissus squelettiques. Voilà, donc c'est une méthode qui était connue depuis longtemps, hein, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, mais depuis les débuts de l'invention de la datation par le radiocarbone, mais qui avait été mise de côté parce que les dates obtenues étaient trop jeunes par rapport à la réalité. Mais en travaillant longtemps sur cette méthode, en retravaillant, en faisant différents types de traitements, donc qu'a fait Antoine depuis au moins 10 à 15 ans, d'où l'importance parfois, enfin tout le temps, de financer cette recherche qui ne va pas donner de résultats tout de suite, mais un peu plus tard, il faut le souligner. Lui, en travaillant sur la méthode, et puis une autre collègue à lui, qui est, je crois, à l'université d'Oxford, qu'on cite, hein, Rachel Wood, qui a, elle aussi, fourni un nouveau traitement, cette méthode est devenue beaucoup plus fiable et a été utilisée, donc, pour cette étude, et c'était notre seul moyen finalement d'obtenir de nouvelles datations.
Donc là on parle de 23 dents humaines qui ont été retrouvées dans des espaces clos qui proviennent de toutes les couches de la période 1. Donc exactement. Ça c'est aussi important parce que ça va vous permettre d'établir une date, et là, roulement de tambour, quelle est cette date? À quel résultat vous parvenez avec ce réexamen des dents?
Alors, roulement de tambour, et effectivement, juste avant le roulement, c'est important de le signaler, ces échantillons viennent de contextes clos. Donc là, il n'y a plus d'histoire d'échantillons qui se baladent d'une couche à l'autre. Donc ça c'est extrêmement important, et des échantillons qui viennent des couches les plus anciennes aux couches les plus récentes de cette période 1. Et roulement de tambour, ces dates nous placent autour de 5000 avant notre ère. Alors, entre 5002 à peu près et 4600 avant notre ère, sachant que pour des questions de plateau, en ce qui concerne la calibration de ces dates, on a une incertitude. Donc il y a deux hypothèses en ce qui concerne les débuts et la fin et la durée aussi de l'occupation, enfin de cette période 1, mais on est solidement ancré entre 5200 et 4650 à peu près avant notre ère.
Donc ça rajeunit considérablement le processus néolithique dans cette vallée de l'Indus par rapport aux estimations que faisait Jean-François Jarige.
Voilà, tout à fait.
Et il y a quelque chose d'autre qui est étonnant, Benjamin Mutin, dans ses travaux aussi, c'est que cette étude met en avant une durée très courte finalement d'occupation sur ces multiples strates dont on parlait. Comment on explique ça? Ça veut dire que les cycles étaient très... D'une génération à l'autre, finalement, on délaissait un bâtiment, ça devenait une poubelle, une sépulture, et puis on reconstruisait tout de suite dessus?
Voilà, alors c'est beaucoup plus court, oui. Donc là, j'ai pas de réponse. On se pose la question, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on creuse davantage et qui peut aussi être appliqué d'ailleurs à tous ces sites hein, qu'on appelle des tels, qui sont formés d'occupations humaines successives. C'est vrai qu'on peut penser que les crues de la rivière Bolan ont peut-être causé des destructions récurrentes, plus rapides qu'on ne le pensait, donc il a fallu reconstruire. Il faut penser aussi à ces habitations donc qui ont pu avoir été détruites, et puis les populations qui les habitaient finalement se sont déplacées un petit peu au-delà en fait de ces habitations et ont reconstruit à côté, et puis ont jeté leurs poubelles finalement là où étaient les ruines de leurs anciennes habitations. Il faut penser aussi horizontalement, voilà. Et en ce qui concerne les cimetières, on peut se poser aussi la question de savoir à partir de quand c'est acceptable finalement de construire de nouvelles habitations sur un lieu funéraire, sur une tombe. Et ça, bon, on n'a pas la réponse, mais en tout cas, ça donne à penser sur effectivement la rapidité d'accumulation de ces tels. Là, on est sur près de 10 mètres d'épaisseur quand même.
Et cette étude, elle pose ces questions-là, elle apporte pas encore d'éléments de réponse, parce que cette étude aussi se concentre sur une autre chose, c'est quand même les conséquences qu'a ce rajeunissement de la période néolithique et de la néolithisation de cette vallée de l'Indus. Alors, quelles sont les conséquences? Comment ça nous oblige finalement d'une certaine façon à réécrire le scénario de l'arrivée du néolithique dans cette région du monde?
Alors, sur la base des données seules de Mergard, on peut tirer quelques conclusions. Après, on n'est pas à l'abri. Faut savoir que Mergard, c'est le seul site néolithique fouillé de façon extensive au Pakistan. Après, il y a 4 autres sites sondés ou fouillés, et néolithiques. Donc, on est vraiment sur des données très, très limitées. Et donc, on n'est pas à l'abri, et ce serait très bien aussi de trouver un site néolithique ancien qui montrerait un développement indépendant,
spontané, autonome.
Autonome de l'agriculture. Voilà, ça on n'exclut pas, on l'écrit dans l'article, mais en tout cas Mergard, les données de Mergard montrent que c'est un site récent. Et en plus, on a réexaminé les liens justement en ce qui concerne les vestiges matériels, qui finalement, si on cherche à tirer des comparaisons, on trouve des comparaisons avec des objets datés d'autour de 5000, dans le sud-est de l'Iran, notamment comme je viens de le dire en ce qui concerne les figurines. Les espèces végétales, animales, elles sont cultivées et élevées dès le début de la séquence, même s'il y a beaucoup de chasse au début. Elles font le lien aussi avec ce qui se passe plus à l'ouest. Donc c'est pareil pour l'architecture. Donc si vous voulez, le raisonnement logique voudrait que les populations qui se sont installées de Mergard auraient quelque chose à voir avec les populations néolithiques de l'Iran et ou de l'Asie centrale.
Comment on peut faire pour le savoir, ça ?
Disons que là, la majorité de nos liens tentent à le montrer. Voilà. Mais après, on est à 1000 km du site néolithique le plus proche, dans le sud-est de l'Iran. Donc, pour nous, c'est le scénario le plus vraisemblable, mais j'insiste sur ce mot vraisemblable, d'après les données disponibles.
Il faut rappeler, alors là, je le disais tout à l'heure, le fait que ces travaux d'archéologie ont été réalisés sur la base d'échantillons, mais que le site est aujourd'hui de Mergard est inaccessible aux archéologues européens. Vous-même, vous êtes plutôt spécialiste de l'Iran, et donc vous n'êtes jamais allé sur le site de Mergard, si je ne dis pas de
bêtises. Alors, pas à Mergard, mais dans d'autres régions du Pakistan.
D'accord.
C'est pour ça que ça m'intéresse aussi.
Oui, bien sûr. Ouais. Et alors, du coup, quelles sont les suites que vous allez donner à ces travaux-là ? Comment on peut envisager cette révision du scénario de la néolithisation de la vallée de l'Indus à partir de ces travaux-là, sans fouilles à venir prochaines ?
Alors effectivement, on peut pas aller au Baloutchistan. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais Mergard est un site de la province du Baloutchistan pakistanais, donc l'une des provinces du Pakistan. En revanche, il y a une mission française active dans la vallée de l'Indus, dans la province du Sindh, donc plus au sud, donc qui est dirigée par Aurore Didier au CNRS, la mission archéologique française du bassin de l'Indus. Et dans le cadre de cette mission, en fait, Aurore, avec laquelle on collabore depuis longtemps, on a décidé de développer un volet préhistoire. Et donc, on envisage de reprendre ces questions. On a initié des prospections l'année dernière. On travaille à pouvoir ouvrir de nouvelles fouilles sur des sites anciens, espérons néolithiques ou au moins calcolithiques, pour comprendre justement l'apparition des premiers villages agricoles dans cette région. Alors, on fait avec ce qu'on a. On ne peut pas aller au Baloutchistan. Le Sindh, il y a plein de choses aussi à faire, très, 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 très intéressantes. Et ça, ce programme se place donc dans le cadre de cette mission et aussi dans le cadre d'un projet ERC qui s'appelle AgroChrono, donc qui est dirigé par Emmanuel Casanova et qui vise justement à réévaluer, redater le développement des villages agricoles dans les confins indo-iraniens, donc entre le sud-est de l'Iran et le Pakistan. Donc la boucle est bouclée.
La boucle est bouclée, ça c'est pour les projets à venir. Si on doit faire un petit bilan sur finalement comment cette étude incarne bien les recherches aussi consacrées au néolithique, pourquoi est-ce que comment on pourrait décrire ces résultats par rapport à la longue tradition de la recherche sur le néolithique et comment ça continue à nous rendre cette période-là plus complexe, mais dans le bon sens du terme. Je reformule ma question qui était totalement alambiquée, mais pourquoi étude-là finalement incarne bien ce qu'est la recherche sur le néolithique avec toutes ces complexités et toute la difficulté à saisir l'évolution d'un phénomène qui a duré pendant plusieurs millénaires.
Oui, c'est une recherche qui est pionnière, encore, malgré tout. Hein, comme, bon, il n'y a pas de carte. Si, il y a une carte, je crois, sur le site oui. Internet. Mais si vous regardez, on parle quand même de vaste, d'air géographique très étendu. Comme j'ai dit, Tel el-Attachi, donc le site iranien qui est le plus proche de Mergar, hein, depuis l'Iran, est à 1000 km. On raisonne avec des jalons de connaissances ici et là. Donc c'est difficile, en fait. Et donc il faut continuer à accumuler des données sur le terrain. Dans ce sens-là, c'est une recherche qui est toujours exploratoire. Voilà, donc sachant en plus que certains sites, donc certaines régions n'ont pas été explorées, donc c'est pour ça qu'il faut continuer les explorations. Et des sites ont probablement disparu hein, sous l'effet des éléments naturels aussi.
Et on espère en tout cas que vous pourrez continuer de nous rapporter de très beaux résultats de cette partie du monde encore difficilement accessible à vous, archéologues. Merci beaucoup à vous, Benjamin Mutin, d'être venu nous parler de ces résultats.
Ben, merci beaucoup à vous.
Science Chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe et merci à Dalia aujourd'hui à la technique. Merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.